Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Juste la grande voile!
Écologie.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Politique, culture et société. Et parfois, un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Au sommaire du sous-marin aujourd'hui, Ilias Barbeau, vice-président étudiant à l'Université d'Angers, est avec nous. Une initiative mise en place par la ville d'Avrillé, remplacer les publicités par des œuvres d'art. Patrice Lucas, adjoint de la culture d'Avrillé, est avec nous dans le sous-marin. Le flash sport de Simon, les actualités sportives de la semaine. Et on retrouve Lilou, le célèbre parc Marineland à Antibes a fermé ses portes le 5 janvier dernier. Les zoos, les parcs animaliers ont de plus en plus mauvaise presse. Lilou nous explique pourquoi. Qu'est-ce que va offrir la rénovation du gymnase aux étudiants de l'Université d'Angers à Belle-Baye? C'est le reportage de Julien. On est ravis d'être avec vous pour cette nouvelle émission. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. Ilias Barbeau, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le sous-marin, ça va bien?
Ça va et vous?
Tu es donc vice-président de la vie étudiante à l'Université d'Angers. Vous avez lancé une grande enquête sur les conditions de vie étudiante et le bien-être des étudiants de l'UA. Pour y participer, c'est sur le site de l'université. Ça prend 30 minutes et c'est anonyme. Donc sur quelles thématiques les étudiants sont invités à répondre?
Alors comme tu l'as dit, c'est une enquête qui balaye beaucoup de choses parce que sur une demi-heure, il y a énormément de thèmes qui sont balayés. C'est une enquête assez transversale. Donc on va retrouver toute une partie sur le logement, donc de manière générale. On va avoir une partie sur la restauration. On sait qu'il y a de nombreux étudiants qui ont des problématiques liées à la restauration, notamment à Belle-Baye où, vous le savez, il n'y a qu'un rue pour plus de 14 000 étudiants. Et puis on va avoir toute une partie aussi sur la vie étudiante, sur est-ce qu'ils participent aux activités culturelles, la vie associative. Et puis on va avoir aussi tout un pan sur la santé mentale et puis tout ce qui est lié aux services de santé universitaires.
Donc c'est vraiment une opportunité pour les étudiants de s'exprimer.
Bah oui, c'est une grande opportunité et puis c'est un atout pour nous. Hein. Plus il y a de répondants et plus on arrive aussi avec des données qui sont cohérentes et quand on arrive devant des partenaires ou les collectivités, ça nous permet aussi de
mettre des arguments.
Bah exactement, on peut mettre des choses en avant. Plus il y a de réponses et plus c'est crédible.
C'est ce que vous attendez de cette enquête, de ces résultats? Qu'est-ce que vous allez en faire vraiment?
Eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? Déjà, là, on est sur la phase terminale de l'enquête, hein, donc on continue de pousser au maximum pour que il y ait le plus de répondants possible. On est à peu près à 4300 répondants. On vise au moins 4500 pour avoir 20% de taux de réponse. C'est une enquête qui se déroule donc une fois tous les deux ans. Derrière, ça nous permet d'appliquer en fait et puis de réfléchir aux politiques qu'on va mettre en place pour les étudiants au sein de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on reprend aussi l'essentiel des données pour pouvoir agir et puis mettre en lumière certaines choses qu'on n'aurait pas forcément vues sur le terrain.
Il y a un prix à gagner, je crois.
Oui, il y a un prix à gagner.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un voyage pour deux à Bruxelles. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Bruxelles. J'avais incité pour Amsterdam, mais ils n'ont pas...
Et c'est tiré au sort inciter à participer.
Oui, c'est exactement ça, c'est tiré au sort.
Autrement, vous avez mis en place un budget participatif étudiant. Il reste 5 jours pour candidater. Ce projet-là, il vise aussi à améliorer les aménagements, la vie sur le campus.
Eh bien, c'est un projet aussi qui arrive sur sa phase terminale, hein, parce qu'il reste encore quelques jours, là, jusqu'à vendredi, pour pouvoir déposer un projet. On a eu là un gros regain de dépôt de projet la semaine dernière, parce que je pense qu'on arrive aussi à la fin. Donc là, on arrive à une bonne trentaine de projets déjà. Donc c'est déjà extrêmement positif. Hein, ça a vraiment pris. Il y a d'autres universités où ça ne l'a pas du tout fait. Et là, on est déjà en train de voir que ça a pris à l'Université d'Angers. Donc c'est quand même une bonne chose. Et puis sur tous les campus aussi. Donc ça, c'est énormément... c'est une vraie
de
réussite.
De Cholet, des Sables d'Olonne.
Ouais, de Cholet, de Saumur aussi, et puis voilà, Belle-Baye, Santé, Saint-Serge. Donc c'est super positif. J'espère qu'ils seront encore nombreux à participer. Et on va entrer ensuite dans une autre phase qui va être la phase d'examen des projets, c'est-à-dire qu'on va avoir un copil qui va être chargé d'évaluer les projets, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et puis ensuite, il y aura la phase de vote à partir de mi-mars.
Voilà. Les étudiants à Angers sont plutôt impliqués dans leur vie étudiante.
Écoute, entre l'enquête vie étudiante et puis le budget participatif, ça montre que oui. En tout cas, il y a des grosses actions de communication qui ont été entreprises. Donc, on a eu une chargée de mission cette année, chargée du budget participatif, donc qui a fait un énorme travail. Et je salue son travail d'ailleurs, parce que là, on a pu voir aussi que si on n'avait pas eu ce moyen humain de communication, quelqu'un qui est à plein temps sur le projet, on n'en serait sans doute pas à ce résultat-là.
Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur le Giving Tuesday, donc la journée internationale du don et de la solidarité du 29 novembre au 4 décembre 2021 pour lutter contre la précarité étudiante. Vous pouvez faire un don de 1 euro lors du passage en caisse dans un magasin partenaire. L'argent a été reversé à la fondation de l'Université d'Angers. Mmh. Aussi a été mis en place mis en avant des structures qui se mobilisent toute l'année pour les plus précaires. Émeric, notamment, était en reportage mercredi 4 décembre à la parenthèse pour nous présenter un atelier de cuisine, un festin solidaire. Mmh. Quel bilan vous faites, Ilias Barbeau ?
Eh bien, un bilan super positif, et surtout dans les temps d'aujourd'hui, on peut voir qu'on est dans une période assez clivante, et là, on a retrouvé quand même de la vraie solidarité. Et le Giving Tuesday, le grand festin où tout le monde se mettait à cuisiner tous ensemble, c'était vraiment, vraiment beau à voir, et c'est des valeurs qu'on retrouve à l'université, ça fait du bien de les voir, donc super positif, j'espère qu'on sera en mesure de réitérer ça tous les ans.
Une autre initiative, c'est la fondation de l'Université d'Angers qui propose d'accompagner 25 étudiantes scientifiques et qui offre une bourse de 1000 euros. Cette bourse, elle permet d'aider les étudiantes dans la poursuite de leurs études et pour l'accomplissement de leurs projets professionnels. Selon Christian Robledo, qui préside la fondation, c'est pour répondre à notre petite échelle au déficit de femmes dans les études comme dans les métiers scientifiques en dehors de la santé, et donc à poursuivre leur carrière dans le domaine des sciences. Qu'est-ce qu'elle représente, ces bourses pour ces étudiantes? Qu'est-ce qu'elles leur permettent de faire?
C'est déjà réduire un déficit, Christian Robledo l'a très bien dit, mais c'est des bourses qui ont été attribuées sur critères sociaux, puis sur critères d'excellence, mais bien sur critères sociaux. Donc c'est aussi non seulement pour valoriser les femmes qui s'engagent dans les filières scientifiques, ce qui, on le sait, est assez rare, et donc c'est aussi valoriser ça, et puis valoriser ceux qui en plus ont moins les moyens. Donc il y a aussi une valeur de méritocratie, d'égalité des chances qu'on vient mettre aussi en valeur, et je remercie aussi donc à Christian Robledo, mais aussi Clémence Guillaumont, qui est déléguée à la fondation et qui a fait un super travail, et puis aussi c'est la fondation Endurant qui a donné les fonds, et on espère qu'ils vont continuer à le faire tous les ans pour qu'on puisse continuer chaque année à valoriser toutes ces femmes qui s'engagent dans les filières scientifiques, et on espère même qu'ils puissent donner un petit peu plus pour aller passer les 1000-1500 euros peut-être, j'espère.
Donc c'est 25 étudiantes qui ont été lauréates de cette bourse la semaine dernière, je crois.
C'est ça, il y avait une cérémonie de remise, donc 25 femmes, et donc voilà, oui, c'est quand même quelque chose de très important qui s'inscrit dans la politique de l'Université d'Angers, qui est de valoriser l'égalité des chances, et donc c'est totalement cohérent en fait avec la politique universitaire.
Le milieu scientifique est encore réservé aux hommes, avec peut-être un manque de modèle féminin aussi dans le milieu universitaire?
Oui, clairement, et on a eu sur la remise des prix, des superbes interventions, notamment de la présidente, et puis de d'autres femmes qui ont réussi à faire une carrière scientifique et qui ont mis en lumière en fait toutes ces années, même ces siècles qu'il a fallu en fait pour qu'on commence à avoir des femmes qui soient reconnues pour leur travail, parce que longtemps ça n'a pas été le cas, elles ont accompli des choses mais sans en récupérer le gain, enfin le bénéfice, et donc là on commence à arriver sur des périodes où on valorise le travail des femmes, et j'espère que ça va pousser de plus en plus de femmes à s'engager dans ces filières-là, parce qu'on en a besoin, surtout aujourd'hui.
Et on a reçu donc la présidente Françoise Grolot, qui je crois a un parcours scientifique.
Mais
aussi,
c'est pour ça exactement, qu'elle a pris la parole. Elle a raconté ça brièvement, enfin c'était très intéressant.
Françoise Grolot, présidente de l'Université d'Angers, on l'a reçue il y a quelques semaines parce que l'université est en déficit de 8 millions d'euros. C'est une année difficile pour l'université. Préserver la vie étudiante malgré tout, est-ce que c'est votre volonté et comment faire?
Eh bien, on a un outil formidable à l'université qui est la CEVEC. Et donc, la question ne se pose pas tant qu'elle est maintenue. Comme vous l'avez vu, il y a eu des amendements qui ont été déposés pour la supprimer. Mais en tout cas, cette CEVEC, c'est une taxe, en fait, une taxe que les étudiants payent, qui est fléchée sur la vie étudiante. Donc, on ne peut pas détourner pour d'autres choses. Et donc, pour l'instant, tant que la CEVEC existe, la vie étudiante sera entièrement préservée à l'Université d'Angers. J'ai d'ailleurs fait une vidéo aux étudiants pour bien leur assurer ça. Donc voilà, le budget de l'Université d'Angers ne va pas impacter leur vie étudiante, ça c'est une certitude.
Très bien, merci beaucoup Ilias Barbeau. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'actualité de la vie du campus d'Angers ?
Eh bien, peut-être un petit mot pour la population mahoraise qui vit en ce moment des choses assez terribles sur leur territoire d'outre-mer. Et on a à peu près une centaine d'étudiants, en tout cas, qui font leurs études à l'Université d'Angers, qui ont des origines mahoraises. Donc on va mettre en place des choses, on va essayer de les accompagner et puis voilà, il y aura la cellule d'aide sociale, il y aura des choses qui vont être faites, notamment psychologiquement, pour les aider si besoin, parce qu'on sait que c'est très compliqué pour eux en ce moment, et peut-être qu'ils ont de la famille aussi sur place. Donc,
Ils peuvent s'adresser, ils peuvent, pardon, s'adresser à qui directement ?
Eh bien, ils peuvent s'adresser, alors soit moi-même, hein, ça peut être vpe@univ-angers.fr, mais voilà, peu importe à leurs composantes, s'ils sont dans leur faculté, voilà, ça remontera, qu'ils n'hésitent pas à saisir leur SCOL. Voilà.
Merci beaucoup, Ilias Barbeau, vice-président de la vie étudiante de l'Université d'Angers.
Vice-président étudiant.
Et on continue le sous-marin, on se retrouve après une pause musicale, c'est Loin d'ici de Johnny Hill.
J'ai coupé mes cheveux et je t'aime encore. Je pense que je t'en veux, mais je sais que j'ai tort. As-tu tout ce que tu veux? C'est ce qui importe. Je ferai ce que je peux. Porte et te laisser partir loin d'ici avec tes secrets indicibles, indicibles. Je me détacherai.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La beauté sauvera le monde, c'est le nom d'une initiative pour remplacer les publicités par des œuvres d'art dans les villes. Et la ville d'Avrier y participe. L'opération consiste donc à afficher sur les panneaux publicitaires des reproductions d'œuvres d'art à la place des annonces commerciales. Patrice Lucas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint à la culture d'Avrier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le sous-marin. Déjà, où sont affichées ces œuvres dans la ville ?
Un peu partout dans la ville, dans les rues, puisque ces œuvres prennent la place des publicités dans les panneaux d'affichage de la ville.
Comment ça fonctionne la publicité dans une ville ? Qui choisit ? Qui peut afficher la publicité ?
Eh bien, la ville a un accord avec une société qui est Promoville. Et voilà, ça fonctionne comme ça à travers cette société.
Et donc vous avez décidé que ces espaces-là, ils seraient pour afficher des œuvres d'art.
Pendant la durée de cette exposition, oui, effectivement.
Quel est le prix des droits d'auteur de ces œuvres?
C'est pas très élevé, ces droits d'auteur. Hein. En tout, pour les 12 œuvres d'art que nous avons choisies, je crois que c'est de l'ordre de 500 euros. Donc c'est pas très élevé.
Alors, quelles œuvres on peut voir?
Eh bien, je les ai là avec moi. Hein. Donc, ce sont des œuvres choisies dans une collection de 100 œuvres d'art. Nous en avons choisi 12 avec Madame le maire d'Avrier. Donc, on a du Pissarro, on a du Renoir, on a du Léonard de Vinci, une très très belle peinture de Léonard de Vinci, la Vierge, l'Enfant Jésus, qui se prête bien à l'époque où on est. On a du Bonnard, on a du Van Gogh qui est hyper connu, c'est l'église d'Auvers, du Caillebotte, etc. Donc des œuvres qui sont pour la plupart connues, qu'on trouve dans les musées français.
Alors pourquoi intégrer l'art aux espaces publics? Déjà, est-ce que cela permet un accès gratuit à tous et aussi de démocratiser l'art sur le territoire avec un patrimoine artistique qui est visible surtout à Paris?
Oui, alors il faut savoir qu'au départ, c'est une initiative du maire de Saint-Dizier. Pendant le Covid, vous savez qu'on était en période de restriction et de fermeture des musées en particulier, mais aussi toutes les structures culturelles. Et il a pris cette initiative dans sa ville d'offrir des peintures à ses habitants. Et 3 ans après, donc 2024, il a ouvert ce dispositif à l'ensemble des villes de France. Et donc 32 villes exactement participent cette année pour la première fois, parmi lesquelles Avrier. Effectivement, le but, c'est de faire sortir les œuvres d'art des musées et puis d'embellir en quelque sorte la ville. Le thème cette année, c'est la lumière. Donc c'est un thème très très, très intéressant dans cette période de décembre. Nous, on est un petit peu décalé à Avrier parce que l'exposition dans les 31 villes a déjà eu lieu. Chez nous, donc, c'est sur la période de Noël, période que je trouve très, très, très propice à ce dispositif.
Oui, est-ce que ce dispositif, il revêt une signification encore plus particulière à Noël, qui est quand même une période où on voit beaucoup de publicité qui incite à la consommation? Est-ce que ça fait écho aussi
Tout à fait, oui. Je ne vais pas dire que c'est une coïncidence, parce que c'est un petit peu aussi voulu, notre souhait, Mme le maire, à moi-même. Cette contrée, un petit peu, cette hyper-consommation qu'on trouve au moment des fêtes. D'élever un peu le regard, puisque c'est une rencontre qui va avoir lieu entre des passants qui ne s'y attendent pas et des peintures qui sortent du musée. Voilà, et des peintures particulièrement lumineuses, plus ou moins connues, particulièrement lumineuses, qui chaque fois élèvent le regard et apportent un petit peu de la beauté de la peinture dans la rue.
Oui, ça permet de réveiller la curiosité des habitants. Est-ce que vous avez des retours?
Alors, on vient juste de commencer, donc je n'ai pas encore de retour précis des habitants, mais ça ne saurait tarder.
Et est-ce qu'ils ont participé au choix des œuvres?
Non, ils n'ont pas participé au choix. Le choix s'est fait à deux personnes, Madame le maire d'Avrier, Caroline Houssin-Salvota et moi-même.
Alors, pourquoi intégrer l'art aux espaces publics? Pourquoi c'était important pour vous?
Alors, il faut savoir qu'à Avrier, depuis que nous sommes aux responsabilités, c'est-à-dire depuis 4 ans, on a fait de la culture une de nos priorités. C'est un vrai engagement. On a voulu un petit peu réveiller la ville. On a considéré que la ville, qui est quand même proche de la ville-centre Angers, où on trouve une multitude d'offres culturelles. On a pensé qu'Avrier avait besoin aussi se réveiller et que la culture était un bon moyen d'apporter aux gens de la couleur, du dynamisme, de la réflexion, du divertissement, et puis de créer du lien aussi entre les gens. Aller au théâtre, écouter de la musique, aller au concert, c'est une manière de finalement faire se rencontrer les gens et faire qu'ils partagent des émotions, qu'à la fin du concert ou du théâtre, ils se parlent entre eux.
Pourquoi la culture, ça permet ça?
C'est une vaste question, oui. Pourquoi la culture permet ça? En fait, les gens sont avides de parler quand on leur en donne la possibilité. Et dans une ville, les possibilités de se rencontrer, de parler, ne sont pas si nombreuses. Les commerces sont de moins en moins nombreux dans les petites villes. Il y a des commerces à Avrillé. Mais les lieux vraiment d'échange où on prend le temps, où on choisit d'aller et on prend le temps, sont assez rares. Et un théâtre, une salle de musique, un centre culturel, c'est fait pour ça. Les gens y viennent, ils ont du temps devant eux. Après une soirée, ils restent volontiers dans le hall. Chez nous, le centre culturel, c'est Georges Brassens, c'est... Voilà, ils se parlent des émotions qu'ils ont ressenties pendant l'événement culturel. On peut penser que dans la rue, ça va être un petit peu la même chose, hein, que les gens, s'ils sont plusieurs devant une peinture, ils vont se parler, ils vont se dire ce qu'ils ressentent.
Oui, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même pour se démarquer de cette société de consommation où tout va vite, c'est vraiment une bonne proposition.
Complètement, oui.
Est-ce que ça prend aussi une signification particulière avec les coupes budgétaires envisagées par la région, par Christelle Morancé, qui touchent notamment la culture ?
Alors, non, pas du tout, parce que le choix que nous avons fait, il a été fait précédemment aux annonces. Et voilà, ces annonces arrivent. Maintenant, c'est bien de montrer que la culture... ça coûte un petit peu, c'est pas forcément toujours beaucoup, mais je veux dire, c'est une offre gratuite qui va pas coûter énormément à la ville, mais c'est quand même une mobilisation des panneaux publicitaires pendant lesquels il n'y a pas de rentrée publicitaire. Et la culture, ça doit être une offre qu'on fait à un public. Et il n'y a pas forcément de retour à attendre sur le plan financier. Et alors, pour parler un peu franchement, les annonces de la région qui sont purement économiques, qui vont restreindre, faire que certaines compagnies vont disparaître, risquent de disparaître, que des festivals risquent de disparaître, c'est une annonce qui est quand même assez étonnante, quoi. La culture coûte, certes, mais ça fait partie du service que l'on doit aux gens, du service public, quoi. On ne peut pas attendre de la culture qu'elle fasse rentrer de l'argent.
Oui, pour vous, cette position de la commune, ça fait tout son sens, que ce soit la commune qui mette en place ce dispositif en tant que...
Bien sûr, bien sûr. Et ça va dans le sens de ce qu'on fait dans le centre Brassens, hein, où on fait venir des personnalités, voilà, ça coûte de l'argent à la commune, mais c'est ce qu'on doit aux gens, c'est que les gens attendent aussi.
Et justement, vous expliquez que donc il n'y a pas de rentrée d'argent. Ces panneaux publicitaires, par qui ils étaient détenus? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Est-ce qu'il y a des annonceurs qui ont dû renoncer à ces affiches? Comment ça s'est passé en fait
pour décider? Non, pas franchement, non. Il n'y a pas forcément beaucoup d'annonces dans une ville comme
Avrillé.
Et puis ce sont aussi des panneaux qui servent à la communication de la ville.
Oui, de la publicité pour la municipalité, voilà, les événements de la ville.
Voilà, donc c'est simplement des campagnes de communication qui sont reportées ou retardées. Mais il n'y a pas un fort impact financier.
Donc dans la ville d'Avrillé, on peut retrouver diverses œuvres. Est-ce que vous voulez... un petit peu nous reciter les œuvres que vous avez dessinées.
Oui, alors ce sont chaque fois de belles œuvres. Je pense à Auguste Renoir, Danse à la campagne, ces deux personnages qui dansent dans un bal. Je pense à cette œuvre anonyme, moi, que je trouve très, très amusante, L'automobile, l'enfance. On voit un petit garçon dans sa...
une sorte de voiture.
Sa voiture à roues qui descend une pente.
Vous trouvez ça amusant
qui s'amuse. Pas parce que Noël, c'est l'enfance, c'est cette période-là, c'est vraiment l'enfance, quoi. Et on a besoin de trouver dans la période un petit peu... mon prédécesseur disait clivante, période clivante, mais une période un petit peu pessimiste quand même. Hein, compliquée hein, sur le plan social et politique. Donc voilà, c'est bien d'avoir cette note qui nous fait retrouver le monde de l'enfance. Je pense à Auguste Renoir, le bal du Moulin, et puis je reviens à cette superbe peinture de Léonard Vinci, la Vierge, l'Enfant Jésus, Sainte-Anne, qui est vraiment lumineuse, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Patrice Lucas, adjoint à la culture de la ville d'Avrillé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le sous-marin pour nous présenter cette initiative qui peut-être va s'étendre sur d'autres villes. Je crois qu'il y a d'autres villes aussi dans les Pays de la Loire
Alors dans les Pays de la Loire, il y a une ville, il y a Laval, grande ville, il y a une ville en Sarthe, une ville en Vendée. Je crois qu'il y a 4 villes en tout dans les Pays de la Loire.
Très merci beaucoup Patrice Lucas.
Merci à vous, bonsoir.
On se retrouve après une pause musicale. On écoute tout de suite Amor de Clément Noury.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et c'est l'heure de la chronique de Simon. Salut.
Salut Lisa, ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va très bien, écoute.
Un week-end de sport angevin apporté par les Ducs en Ligue Magnus.
Nos hiboux préférés affrontaient Bordeaux samedi dernier pour la 27e journée de Ligue Magnus. Angers a rapidement pris l'avantage en marquant à la 5e minute. Après une longue période sans but, les Ducs ont doublé la mise à la 34e. Mais Bordeaux a montré de la résilience et est revenu à hauteur d'Angers dans le dernier tiers-temps. Angers a finalement arraché la victoire à moins de 3 minutes de la fin. Une victoire importante puisque Bordeaux sont les concurrents directs pour la deuxième place.
Et l'UFAB qui n'a pas connu le même sort face à Charleville-Mézières.
Contrairement au Duc, l'UFAB a été mené dès le début de la partie en perdant le premier quart-temps 21-15. Un écart que les Angevins n'ont jamais réussi à combler. Malgré les très belles performances d'Anna Ngo-Njok et Amerist Alston, toutes deux au-dessus des 20 points, Angers s'est incliné. Avec cette défaite 74-84, l'UFAB est 6e avec 6 victoires et 4 défaites, à égalité avec Basketland. Prochain match samedi à 20h face au leader de Bourges.
Et le SCO qui a lui aussi connu une déconvenue ce week-end.
Les hommes d'Alexandre Dujeu se mesuraient à Rennes hier. Et même si le match a été accroché, les scoïstes n'ont pas vraiment inquiété les Rennais. Le stade a ouvert le score à la 33e minute et a doublé la mise en toute fin de partie à la 92e dans le temps additionnel. Angers reste en dehors de la zone rouge mais à égalité de points avec Saint-Étienne les 16e. Ils jouent ce week-end en Coupe de France contre Bobigny et ne retrouveront la Ligue 1 que l'année prochaine.
Et comme chaque semaine depuis plus d'un mois, on prend des nouvelles du Vendée Globe.
Les trois premiers ont maintenant dépassé le sud de la Nouvelle-Zélande, très loin devant le reste des autres concurrents. C'est Charlie Dalin qui mène toujours les débats aujourd'hui après le pointage de 15h. Son dauphin Johan Richomme se rapproche cependant dangereusement de lui et il ne compte plus que 17 000 nautiques de retard. La course risque de continuer d'être serrée jusqu'au bout. Côté féminin, les trois premières se suivent aux 11e, 12e et 13e place. Et puis, depuis la dernière fois, un deuxième abandon est survenu. C'est celui de Louis Burton qui a abandonné il y a 10 jours à cause d'une avarie d'un élément mécanique.
L'équipe de France de handball qui a terminé son parcours à l'Euro.
Les Françaises avaient perdu en demi-finale vendredi face aux Danoises. Même si la victoire était compromise, elles pouvaient encore décrocher la troisième place sur le podium. Mais l'équipe de Hongrie leur a mis des bâtons dans les roues. La France est inclinée 24-25 au terme d'un match très serré. Malgré la déception de la défaite, les Bleus ont réalisé un beau parcours, témoignant de leur volonté d'aller au bout de chaque match. Et côté final, ce sont les Norvégiennes qui ont dominé les Danoises 31-23 pour conserver leur titre de championne d'Europe.
Un peu d'insolite avec les championnats du monde d'échecs.
Ils se déroulaient la semaine dernière à Singapour et un événement historique a marqué cette édition 2024 puisque le vainqueur est tout simplement le plus jeune de l'histoire. C'est l'Indien Domaraju Gukesh, âgé de seulement 18 ans, qui a remporté la compétition face au Chinois Ding Liren. Le natif de Madras a profité d'une erreur de son adversaire au 55e coup pour emporter la 14e manche de cette finale. Il est ainsi devenu le deuxième joueur indien à décrocher le titre de champion du monde.
Et on se quitte sur ton dernier conseil de l'année.
Et oui Lisa, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. C'est la dernière fois que vous allez m'entendre en 2024 et je ne reviendrai qu'en mars puisque je serai en stage en janvier et février. Alors pour ce dernier conseil de la semaine, je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler de football américain, un de mes sports préférés. Comme je ne serai pas là en janvier pour vous rabâcher d'aller regarder les playoffs, je vous le dis maintenant. Cette fin de saison s'annonce grandiose car cette année, il y a réellement plusieurs équipes qui ont des chances de l'emporter. Entre les tenants du titre de Kansas City, les Lions de Détroit, les Bills de Buffalo, les Eagles de Philadelphie ou encore mon équipe préférée, les Ravens de Baltimore, il y a de quoi faire. Alors faites-moi plaisir, foncez regarder la fin de saison et les playoffs. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un Merry Christmas d'avance et une... à l'année prochaine.
À l'année prochaine, merci beaucoup et on a hâte de te retrouver en février.
Moi aussi, j'ai hâte.
Merci Simon. tous les midis, les sportifs et sportives de l'université se retrouvent dans le gymnase Flambant Neuf. Au programme aujourd'hui, escalade, volley, crossfit ou encore handi-basket. Depuis début novembre, le gymnase du service universitaire des activités physiques et sportives, appelé SUAPS, à Belbeil, a fait peau neuve pour le bonheur des étudiants.
Ce midi, pas le temps de se reposer pour les élèves en polytechnique qui se retrouvent pour leur séance de sport. Après plus de 3 mois de travaux, le gymnase du SUAPS a rouvert entièrement. Et pour les étudiants et étudiantes qui ont connu l'ancienne version, le changement est de taille. Clément est en pleine séance de handi-basket, il nous raconte sa surprise lors de la découverte.
La première fois qu'on est rentré dedans après les rénovations, c'était vraiment un truc autour duquel nous on a parlé avec ceux qui étaient déjà là avant. En se disant bah justement, oh la vache, ça change à mort.
Les travaux ont permis de refaire tous les sols qui avaient plus de 25 ans, mais aussi de réorganiser tous les espaces. D'après Richard Garnier, enseignant d'éducation physique et directeur du service SUAPS depuis 2 ans, cette réorganisation était nécessaire.
Les heures de cours préférentielles, on va dire, c'est de 18h à 21h. Donc là, ça permet, par cette réorganisation pédagogique, on peut être amené à travailler à 6 groupes, 6 enseignants en même temps dans tous les gymnases. Voilà. Donc les gymnases, le mur d'escalade, l'espace cardio. Donc on a une découpe en fait qui nous permet de proposer plus d'offres en fait aux étudiants.
Un des points phares du projet, c'est le mur d'escalade. Pour beaucoup d'étudiants et étudiantes, comme Émilie, ce changement majeur motive pour venir faire du sport.
Bah, tout le mur a changé et c'est vrai qu'il est beaucoup plus joli, on voit qu'il est beaucoup plus neuf, donc c'est forcément plus agréable quand on grimpe beaucoup. Après moi je grimpe beaucoup, donc forcément ça me fait d'autant plus plaisir. Bah, ils ont changé les voies aussi au passage, donc ça c'est bien parce que je crois que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas changé les différentes voies sur l'ancien mur.
Malgré la fermeture d'une 15aine d'activités à la rentrée, le SUAPS a réussi à ne pas perdre d'étudiants et compte 7000 inscrits.
Pour les étudiants de l'Université d'Angers qui souhaitent découvrir le gymnase, le SUAPS organise tous les jeudis des tournois au programme du mois de janvier, du volley, du badminton et du basket. Salut Lilou.
Salut Lisa.
Les zoos et aquariums, souvent présentés comme des lieux de conservation et d'éducation, suscitent de nombreuses controverses quant au traitement des animaux qu'ils abritent.
Eh bien, si ces structures offrent la possibilité d'observer des espèces sauvages de près, elles ne parviennent que très rarement à recréer les conditions de vie naturelles des animaux, et ça, ça cause des conséquences importantes sur leur bien-être.
Alors les animaux captifs sont confinés dans des espaces restreints, souvent très éloignés de leurs habitats d'origine.
Oui, par exemple, les éléphants qui parcourent des dizaines de kilomètres par jour dans la nature sont limités à de petits enclos dans les zoos. Les cétacés comme les dauphins ou les orques évoluent dans des bassins artificiels bien trop petits pour de tels animaux et où ils ne peuvent pas correctement exprimer leur comportement naturel. Ces conditions causent fréquemment des troubles physiques et psychologiques. Dans les comportements stéréotypés, on retrouve des mouvements répétitifs, de l'automutilation, du stress chronique, des maladies liées à l'inactivité, obésité et j'en passe.
Les défenseurs des zoos mettent en avant leur rôle dans la conservation et l'éducation. Alors comment ?
En prenant l'exemple de certains programmes de reproduction en captivité ont permis de réintroduire des espèces menacées comme le condor en Californie. Mais ces initiatives restent rares et la majorité des animaux captifs ne sont pas concernés par ce type de programme. En plus, l'éducation donnée par ces structures est contestée. Représenter des animaux hors de leur habitat naturel pourrait donner une image déformée de leur comportement.
Il y a des alternatives qui sont trouvées face à ces problématiques ?
Il existe des sanctuaires et réserves naturelles ainsi que des zoos modernisés qui visent à améliorer le bien-être animal tout en répondant aux objectifs éducatifs et de conservation. Ces initiatives, elles sont encore rares et elles reflètent une prise de conscience croissante sur la nécessité de respecter un peu plus les besoins des animaux gardés en captivité.
Donc même si les zoos et les aquariums jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité, ils suscitent plusieurs questions éthiques.
Le défi est désormais de transformer ces lieux pour mieux concilier conservation, éducation et respect du bien-être animal.
Merci beaucoup Lilou. Renseignez-vous donc sur la façon avec laquelle sont traités les animaux dans les parcs que vous souhaitez visiter.
18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. On se retrouve demain. Merci beaucoup à Aymeric et à Julie pour la technique aujourd'hui. On vous souhaite de passer une très belle soirée sur le 103 FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.